Mais en première lecture, vous l'avez remarqué, nous avons écouté un court texte apocalyptique également du prophète Malachie. Le prophète Malachie, c'est, nous le savons, le dernier livre de l'Ancien Testament. Et alors il est inutile de préciser, je pense que tout le monde le sait, que le Verbe de Dieu, le Seigneur Jésus, connaissait parfaitement la Bible de fond en comble, enfin l'Ancien Testament, puisque eh bien, il était le Verbe de Dieu, la parole incarnée. Donc il se rappelle certainement de ce dernier livre de Malachie, de ce chapitre. Alors qu'est-ce que fait Malachie? Eh bien d'abord, au début de son livre, au chapitre 1 et 2, il dénonce l'attitude de son peuple, comme le font souvent les prophètes. Ce peuple qui est infidèle, qui célèbre des sacrifices souillés, et le Seigneur, à travers la voix de Malachie, le lui reproche, et il reproche en particulier aux prêtres. Il leur annonce même la malédiction, voir s'ils continuent sur leur mauvaise voie. Voilà, et on en trouve dans le chapitre 2, par exemple, « Et même vous, les prêtres, à vous ce commandement, si vous ne m'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur mon nom, dit le Seigneur Sabaoth, je vous enverrai sur vous la malédiction, et je maudirai votre bénédiction. » C'est pas petit. Alors que les lèvres du prêtre doivent garder le savoir de Dieu, afin que de sa bouche ou de leur bouche puisse venir un enseignement de vérité, eh bien le Seigneur dit par la bouche du prophète, « Vous vous êtes écartés de la voie, vous avez encore fait trébucher un grand nombre par l'enseignement, vous avez détruit l'alliance de Lévi, c'est-à-dire le fondateur de la tribu des prêtres, dit le Seigneur Sabaoth, et moi, je vous ai rendu méprisable et vil pour tout le peuple, dans la mesure où vous n'avez pas gardé mes voies, mais avez fait exception de personne en vos enseignements. » Le prophète prend ensuite la parole à son propre nom et il interroge ses compatriotes, ses religionnaires. Quoi, n'avons-nous pas un Père universel? Donc, très intéressant de voir qu'il s'agit bien du Père ici déjà. Dans l'Ancien Testament. N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Pourquoi sommes-nous perfides l'un envers l'autre en profanant l'alliance de nos pères? Puis Malachie, reprenant au début du chapitre 3 la parole au nom de l'Éternel, il annonce la venue d'abord d'un messager. Alors on peut facilement, et ça a été fait rapidement par les premiers chrétiens, discerner dans la venue de ce messager la personne de Jean-Baptiste, le précurseur. Et ensuite, il prophétise l'entrée dans le sanctuaire de l'ange de l'Alliance. Et nous savons que c'est une manière de parler tout simplement du Seigneur lui-même. Ce sera alors, dit Malachie, un temps de purification. Et enfin, viendra le jour du Seigneur. Le jour où ceux qui ont fait ou font encore le mal, seront brûlés comme de la paille, vous l'avez entendu, il ne leur restera ni racine ni branche, et le jour où les fidèles, pour ceux qui craignent le nom de Dieu, le soleil de justice se lèvera et apportera la guérison dans son rayonnement. Après la venue du Christ dans ce monde, la tradition chrétienne, très rapidement, dès les premiers temps, a vu dans ce seuil de justice l'annonce de la venue du Seigneur Jésus lui-même, du Christ. Et une note de la Bible de Jérusalem signale, je n'ai pas eu le temps de vérifier si c'était vrai, mais puisqu'ils le disent, que cette appellation du Christ a joué un rôle dans la formation des fêtes de Noël et de l'Épiphanie, que nous allons bientôt célébrer. Je peux ajouter une note personnelle. Je dis souvent au Seigneur, quand le prêtre élève l'hostie après la consécration du pain, je t'adore, ô Seigneur Jésus, soleil de justice qui porte la guérison dans ses rayons. On peut dire la même chose quand on adore le Saint-Sacrement. Alors le psaume 97 que nous avons chanté ensuite est bien dans la même ligne, puisque eh bien, le psalmiste déborde de joie devant la venue du Seigneur. On l'a entendu. Hein, il voit la... Je reprends le texte. Il voit la nature entière, le monde entier, qui tressaille de joie, que résonne la mer et sa richesse, le monde et tous ses habitants, que les fleuves battent des mains, que les montagnes chantent leur joie. Acclamez le Seigneur, car il vient. Il vient pour gouverner la terre, pour gouverner le monde avec justice et le peuple avec droiture. Dans le chapitre 21 de l'Évangile, Luc est interpellé. Alors, dans la version que nous avons lue, c'est pas dit, mais dans la version liturgique, on dit que c'est qu'il est interpellé par les disciples, comme certains disciples. Il est interpellé par certains disciples qui sont dans une admiration débordante devant la beauté du temple de Jérusalem. Il faut savoir que ce temple a été restauré magnifiquement 50 ans plus tôt, dans l'année 20 avant Jésus-Christ, par le roi Hérode le Grand. Et le Seigneur Jésus, alors, on pourrait dire qu'il les douche, il douche leur enthousiasme en tout cas, hein, puisqu'il prévoit la destruction de ce temple qui interviendra à deux reprises. Il sera brûlé le 30 août 70 par l'armée de Tite, l'armée romaine de Tite, un mois avant la chute totale de la ville, qui sera prise par les armées romaines, l'armée de Tite, et à nouveau, il y aura une prise de la ville en 135 sous le règne de l'empereur Adrien. Alors, il faut rajouter que, eh bien, il a déjà, au chapitre 19, versets 44 et autres, il a déjà, le Seigneur, annoncé que bien, la ville allait subir des choses peu agréables. Et même quand il s'approche de la ville, puisqu'il monte à Jérusalem et il va y souffrir la passion bientôt, et bien voilà, il pleure sur Jérusalem. Le texte dit, il pleura sur la ville en disant, « Ah, si en ce jour tu avais compris, toi aussi, le message de paix, le message de paix. » Mais non, il est demeuré caché à tes yeux. Oui, des jours viendront sur toi où tes ennemis t'environneront de retranchements, t'investiront, te presseront de toutes parts. Ils t'écraseront sur le sol, toi et tes enfants au milieu de toi. Ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre pour que tu ne... parce que tu n'as pas reconnu le temps où tu as été visité. Chapitre 19, 41-44. Les disciples, ils sont naturellement anxieux quand Jésus parle comme ça. Et alors ils vont poser à Jésus la question que nous-mêmes on pourrait lui poser. Alors c'est quand? Quand c'est que ça va arriver cette histoire? Non, ils ont très peur. Et alors est-ce qu'il y aura un signe que ça va arriver? Voilà. Alors, très curieusement, enfin pas curieusement du tout, Jésus ne leur indique plus de date. D'ailleurs, il le dira encore, la date du retour du Fils de l'homme, nul ne le sait, même pas le Fils de l'homme, seul le Père des cieux. Voilà. Donc, il va essayer d'affermir leur foi, et surtout de les mettre en garde contre tout ce qui pourrait les induire en erreur. Il sait très bien qu'en Israël, de son temps, il y a des faux prophètes partout, et que même il y en a eu déjà depuis un certain temps. Et puis il sait aussi que, Luc en tout cas, sait que les premiers chrétiens considéraient la ruine de Jérusalem comme précédant immédiatement la parousie. Alors c'est quoi la parousie ? Mais la seule chose qu'on sait sur la parousie, le jour de la parousie, c'est les prédications de Jésus disant « Vous verrez le Fils de l'homme revenir sous les nuées, escorté par les anges et les saints. » Voilà. Mais bien sûr, là aussi, Jésus ne donne pas de date. Il met en garde. Il met en garde contre ces faux prophètes, mais aussi il les prévient qu'il y aura un certain nombre d'événements qui vont précéder, un certain nombre d'événements qui sont proches ou lointains de la parousie. Et bien, les choses que l'on voit aujourd'hui sont assez du même genre que ce que le Seigneur prédit. Mais il dit aussi, et nous l'avons entendu dans le petit verset avant l'évangile, redressez-vous et relevez la tête, car votre récompense est proche, quand vous verrez toutes ces choses. Surtout, ne vous laissez pas terrifier. Il ne faut pas vous laisser terrifier. Il y aura des guerres, il y aura des bouleversements cosmiques, il y aura des grands tremblements de terre, il y aura des épidémies, de la peste. Donc voilà, c'est toutes sortes. Voilà. Et il y aura aussi même de grands signes dans le ciel. Et surtout, il y aura la persécution. La persécution qui amènera les croyants fidèles devant les tribunaux des rois, des gouverneurs. Et alors, eh bien, il suffit d'ailleurs de voir ça dès le début du livre des Actes des Apôtres, déjà lorsque, eh bien, les Pierre et Jean sont conduits devant le Sanhédrin, on a parlé de ça récemment, et où devant le Sanhédrin, ils vont affirmer leur foi avec force. Il n'y a aucun nom qui puisse nous sauver sur cette terre, sinon le nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais l'annonce de tous ces événements, de ces signes, est accompagnée d'une promesse ferme. Vous n'avez pas à vous préoccuper de ce que vous aurez à dire lorsque vous serez traîné devant les tribunaux. Je vous donnerai un langage de sagesse. Un langage de sagesse, c'est-à-dire celle de l'Esprit Saint, répondu sur les apôtres et les disciples au jour de Pentecôte. Et il avait dit déjà, ne soyez pas terrifiés, il faut que cela arrive d'abord, mais ce ne sera pas aussitôt la fin. Alors encore une fois de plus, je ne vais pas revenir dessus, il reprend une petite phrase, un morceau d'un verset du livre de Daniel, notre prophète, chapitre 2, verset 28, où Nabucodonosor a fait un songe, il comprend ce que le songe signifie, et il demande à Daniel de l'interpréter. Voilà. Et alors Daniel répond, le mystère que poursuit le roi, sage, magicien et exorciste n'ont pas pu le découvrir au roi. Mais il y a un Dieu dans le ciel qui lui révèle les mystères et qui a fait connaître au roi Nabucodonosor ce qui doit arriver à la fin des jours. Vous voyez, c'est déjà la tonalité politique allemande. Alors, je signale ce qu'un commentateur, un évêque de l'évangile de Luc, a dit à propos de ce morceau de l'évangile. La formule signifie que ces événements eux-mêmes s'inscrivent, c'est ça qui est très important de garder pour mémoire, dans le dessein de Dieu, et ne sont pas sans signification pour le croyant. Voilà. Et le dernier verset du passage de Luc que nous avons entendu va encore dans ce sens. Soyez sans crainte, pas un cheveu de votre tête ne sera perdu, c'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. Alors évidemment, on est un peu surpris, il ne dit pas un cheveu de votre tête, et puis on sait qu'il y en a qui vont être martyrisés. Alors je pense qu'on peut l'interpréter de deux manières. La première manière de respecter ce commandement, c'est de continuer à vivre paisiblement, dans l'espérance que quoi qu'il arrive, bien, le Seigneur est auprès de son peuple. La seconde, c'est que même si le croyant doit subir le martyr, il sera accompagné dans ce martyr par le Seigneur lui-même. Et il sait que pour son nom est inscrit pour toujours dans le livre de vie. Dans le passage des Thessaloniciens, que nous avons entendu, on pourrait se dire pourquoi ils ont mis ce passage-là à côté des deux autres qui sont sur le jour du Seigneur. Eh bien, moi je pense que c'est tout à fait juste. C'est-à-dire que Paul, là, dans ce texte, paraît très terre à terre. Voilà. Il dit, voilà, ne vivez pas dans le désordre. N'ayez pas une conduite désordonnée. Si vous ne gagnez pas votre vie en travaillant, ben vous n'aurez pas de pain. Voilà. Il dit, moi, j'ai travaillé pour être auprès de vous, pour prêcher, etc. Et voilà. Alors, on sait que Paul a quand même connu un chemin qui n'était pas un chemin de rose, hein, il a dit quelque part, il raconte tous les avatars, toutes les expériences désagréables qu'il a vécues, mais il demande, comme Jésus dans ce texte, de persévérer sur le chemin humble et quotidien. Et c'est la meilleure manière, certainement, pour nous de vérifier l'adage qui était au début, qui était rappelé d'ailleurs par Pierre-Jean tout à l'heure, il était rappelé par le pape François au début d'année de l'espérance, l'espérance ne déçoit point, car l'amour de Dieu a été répandu dans vos cœurs, par l'Esprit Saint vous a été donné. Je voudrais tout terminer, vous verrez, ça peut être les cheveux sur la soupe, mais c'est une prière que je récite tous les soirs, et que je trouve très très belle, de Marthe Romain. Vous allez connaître Marthe Romain. Marthe Romain, je pense qu'elle a un peu souffert. Voilà ce qu'elle dit, une prière à Marie. Ô Mère bien-aimée, vous qui connaissez si bien les voies de la sainteté et de l'amour, apprenez-nous à élever souvent notre esprit et notre cœur vers la Trinité, à fixer sur la Trinité notre respectueuse et affectueuse attention. Et puisque, ô Marie, vous cheminez avec nous sur le chemin de la vie éternelle, ne demeurez pas étrangère aux faibles pèlerins que votre charité veut bien recueillir. Tournez vers nous vos regards miséricordieux, attirez-nous dans vos clartés, inondez-nous de vos douceurs, emportez-nous dans la lumière et dans l'amour, emportez-nous toujours plus loin et très haut dans les splendeurs des cieux. Que rien ne puisse jamais troubler notre paix, ni nous faire sortir de la pensée de Dieu, mais que chaque minute nous emporte plus avant dans les profondeurs de l'auguste mystère, jusqu'au jour où notre âme, pleinement épanouie aux illuminations de l'union divine, verra toutes choses dans l'éternel amour et dans l'unité. Amen.